De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous aujourd'hui l'abbé André Nolin. Abbé Nolin, on le constate, il y a eu cette année le congrès eucharistique l'été dernier. Il y a encore des gestes d'envergure qui sont posés par l'Église, mais qui demeurent l'objet de critiques parce que on a parfois de la difficulté à se distancer de notre passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
C'est-à-dire, il y a des gens qui ont de la misère de prendre une distance face au passé, puis de dire les rites qu'on avait, c'est ceux-là qu'il faut conserver à tout prix. Je me disais, à un moment donné, il faut être assez créatif pour se dire, comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la parole de Dieu? Comment on peut vivre de l'Eucharistie? T'sais, est-ce que l'Eucharistie, c'est pas d'abord et avant tout le rassemblement des chrétiens qui viennent récélébrer Dieu, qui viennent rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous donnent? Puis aussi de prendre conscience que, dans le fond, on a une mission, que Dieu nous confie une mission, puis Dieu nous accompagne là-dedans. Quand on parle de la grande procession qu'il y a eu, ces choses-là, c'est des manifestations extérieures. C'est développer des cultes un peu marginaux qui sont là. C'est pas le plus important. Que des gens manifestent leur foi, oui, mais le plus important, c'est de se rassembler pour être à l'écoute de la parole de Dieu et d'en vivre vraiment. Quand je viens à l'Eucharistie, je viens rendre grâce, je viens me prendre conscience que je suis en relation avec Dieu, je suis en communion avec lui, qu'il se donne à moi, qu'il m'apporte de l'espérance, qu'il m'apporte aussi de soutien par son pain de vie. Puis qu'il me dit après ça, la messe, hein, souvent on dit ça, la messe commence quand on sort de l'Église, parce qu'on a le vivre maintenant. C'est facile de dire à Dieu, je veux bien, mais quand je suis sur le terrain des vaches, comme on dit, c'est là que des fois c'est plus difficile.
Mais nourri justement du message du Christ, est-ce qu'il est possible d'avoir un sens critique à l'égard de l'Église à laquelle on appartient?
C'est évident. L'Église, c'est une institution qui est à la fois humaine et divine. Elle est divine par sa mission qu'elle a reçue de Dieu, mais par son organisation qui est humaine. Quand l'organisation est un peu déficiente, quand l'organisation mise plus sur un aspect que sur un autre, on a le droit de parler, on est chrétien. Mm-hmm. T'sais, on est membre de l'Église, on est débaptisé. Donc, on a le droit de se dire, à un moment donné, et moi, comment est-ce que je perçois ça? Et mon rêve pour l'Église, c'est quoi? Donc, c'est garder l'espérance, c'est-à-dire, à un moment donné, faisons un pas ensemble. Je me dis, plus les chrétiens sont conscients de leur potentiel de vivre l'Évangile, à ce moment-là, toute la question des façons de faire peuvent être très discutables.
On pourra poursuivre sur ce thème. Nous passons à la musique. Cette fois, elle est d'un Italien, Ottorino Respighi. Elle s'est tirée de ses airs et danses anciennes. Alors, on peut écouter la suite numéro 1, Italiana. Vous allez voir, c'est un air qui est vraiment doucereux. Au gré du temps, Armand Dubois au micro, en compagnie de l'abbé André Nolin de la paroisse Trinité-sur-Richelieu, en Montérégie. Nous parlions de ce sens critique à l'égard de l'Église, de la foi qui doit toujours quand même être questionnée, on peut le dire?
La foi, c'est mon adhésion, c'est ma réponse à l'invitation de vivre en harmonie, de vivre en Dieu. Bon, donc, dans le fond, ma foi, c'est dire, je dis oui à Dieu, je dis oui au sacrement, je dis oui à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, dans ce que je dis oui, j'ai à le prendre puis à avancer là-dedans progressivement.
Mais est-ce que la foi ne se nourrit pas du doute également?
Oui, effectivement, quand c'est normal, à un moment donné, qu'on puisse avoir des doutes puis des remises en question. Et souvent, le doute qui nous arrive va nous aider à aller plus loin, à redécouvrir une autre dimension, une autre perception des choses. C'est « Ah, c'est comme ça ». Puis surtout, c'est que ça permet le doute de chercher ensemble, de dire « Toi, tu vois ça comment ?» Puis d'aller regarder qu'est-ce que les pères disent, qu'est-ce que les théologiens en disent. Et à ce moment-là, on enrichit, on fait une synthèse. Et on dit « Ah, je viens de découvrir quelque chose de nouveau ». C'est ça. Dans le fond, je pense que oui, la foi, c'est un risque. C'est une mise.
C'est un beau risque.
C'est un beau risque. Un beau risque. Et je dis, moi, je pense que ça vaut la peine de... Vous savez, quand j'enseignais avec les étudiants, je disais, une grande partie du cours va parler de Dieu cette année. Puis les étudiants me disaient, « Oui, mais êtes-vous capable de nous prouver que Dieu existe? » Puis je disais, « Non. » Ils disaient, « Mais qu'est-ce qu'on fait ici? » Ben, je disais, « Est-ce que vous êtes capable de me prouver que Dieu n'existe pas? » Donc, on est au niveau de la foi tous les deux. Moi, je crois que Dieu existe. Toi, tu crois que Dieu n'existe pas.
Et c'est probablement plus angoissant pour celui qui se dit athée de croire qu'il y a peut-être une possibilité que Dieu existe.
Oui, c'est son vécu, c'est ça. Son problème, si on pourrait dire, parce que moi, je me dis, la foi, c'est pas une sécurité, mais la foi, c'est une lumière qui vient nous aider à passer à travers les ténèbres de la vie.
Dans quelques semaines se mettront en marche les célébrations préparatoires à Noël, donc ce sera l'Avent. Mm-hmm. Joseph est un personnage dont on ne parle peut-être pas beaucoup quand il est question de la fête de la Nativité, il est beaucoup question de la Vierge, de l'enfant Jésus, mais Joseph est peut-être laissé pour compte. Il y a quand même un chanteur qui, lui, a peut-être compris l'essence même du personnage.
Oui, Moustaki, qui a écrit une belle chanson qui s'appelle « Mon vieux Joseph ». Puis là, il parle à Joseph et il dit « Pauvre Joseph, tu t'es mis dans les pieds un peu avec les tracottes de la vie, ces choses-là. Tu aurais pu avoir une vie facile, tu avais une bonne job, tu avais un bon métier. Pourquoi faire que... » Puis il vient nous dire, dans le fond, que Joseph a toujours dit oui. Il a toujours voulu répondre à l'invitation de Dieu. Puis c'était insécurisant. Mais c'est là qu'il a trouvé le bonheur, puis il a trouvé la lumière en plénitude. C'est une très belle chanson, puis je me dis qu'il nous ressemble beaucoup aujourd'hui, en disant, on est porté souvent à vouloir dire, « Oh, on peut mettre ça de côté. » Mais quand on dit oui à Dieu, ça vient ouvrir toute une nouvelle réalité qui est la vie spirituelle.
Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée. Celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie?
Effectivement, une belle chanson que cette chanson de Moustaki. Très beau choix, Abbé Nolin.
Merci.
J'aimerais beaucoup que vous nous parliez de l'histoire de la libellule. Ça vous dit quelque chose?
Oui, absolument, vous parlez de ça.
Mais c'est tellement beau.
Oui, la libellule, c'est une histoire. D'abord, c'est un événement dans ma vie. C'est qu'il y a quelques mois, des parents se présentent à moi et disent « Notre petit bébé qu'on a voulu avoir depuis des années, qu'on a été en clinique de fertilité, est décédé. Il a vécu 5 jours. » Et en préparant les funérailles, le père et la mère ont dit, on aimerait donc ça que dans la célébration qu'on va faire, qu'on appelle anciennement la célébration des anges, vous repreniez le thème de la fable de la libellule. J'ai dit, je veux bien, mais il faudrait peut-être que je la connaisse. Et c'est eux autres qui vont raconter l'histoire. C'est une très belle histoire. D'abord, il faut savoir que les libellules, ils viennent d'une larve. D'une larve, c'est ça le mot que je cherchais. Et les larves vivent dans l'eau. Et à un moment donné, une larve qui sort de l'eau, puis elle se remplit d'air, puis elle éclate, puis les ailes se sortent, puis ça devient libellule. Donc, c'est le passage d'un animal aquatique à un animal terrestre. Et l'histoire est la suivante, c'est que des larves sont là, puis ils disent à un moment donné, à chaque fois qu'il y a une larve qui monte, soit après un brin d'herbe, soit après une roche, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils font une espèce de petit concile, un petit pacte entre eux autres, puis ils disent, la prochaine larve qui va sortir de l'eau, elle va revenir nous dire qu'est-ce qui se passe.
Du moins, c'est ce qu'elle souhaite.
C'est ça. Ils font une entente là-dessus. Oui. Ils disent, oui, on va faire ça absolument. D'accord. Puis effectivement, il y a une larve qui sort de l'eau, puis elle devient libellule. Puis devenant libellule, elle se rappelle, elle dit, oh, c'est vrai, j'ai fait une promesse. Je vais essayer de leur dire, d'aller leur dire qu'est-ce qui se passe après que c'est tellement beau qu'on devient libellule, c'est extraordinaire. Fait que ma libellule essaye de vouloir rentrer dans l'eau, mais c'est un animal terrestre, elle ne peut pas. Et les larves qui sont là voient bien, eux autres, qu'il y a un ombrage qui est là. Puis on dit, c'est un oiseau, ça, qui veut essayer de venir nous manger. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, il est fatigué, ce oiseau-là, il nous fait de l'ombre. Qu'est-ce qu'il veut? Et ils ne se sont jamais compris, ils n'ont jamais été capables de découvrir qu'on devenait une larve. Il faudrait vivre l'expérience pour le savoir. Je me dis, cette histoire-là, quand on pense à la mort, souvent, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Et c'est la plénitude. C'est on devient la beauté même. On devient la beauté
Quelle
de
belle
vie.
Histoire.
C'est bien, hein?
Quelle belle histoire.
Et ça, je l'ai appris grâce à ce petit couple-là qui ont vécu ce grand deuil-là.
Et vous parlez de plénitude. Il n'y a pas beaucoup à ajouter à une histoire semblable. Tout est dit. Il reste peut-être à le dire en musique. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la musique d'Henry Purcell. L'œuvre de Purcell est d'une incomparable qualité. Il a éclipsé tous ses contemporains dans tous les genres et a connu tous les honneurs. Il a été ouvert aux influences italiennes, françaises. Il a su en tirer une remarquable synthèse musicale. En 36 ans d'existence, parce que lui aussi est devenu libellule assez rapidement, il a modifié le visage de la musique occidentale. Alors, je vais vous faire entendre « A Prince of Glorious Race », extrait de « Who Can Joy Refrain » qui peut s'abstenir de joie. C'est un pur instant de bonheur. Cette ode a été composée pour l'anniversaire du duc de Gloucester. Alors, rien à rajouter, sinon que d'imaginer cette libellule.
Écoutons.
Show.
De la libellule, nous allons passer avec la baie Nolin aux activités très terre à terre. Quand on est prêtre aujourd'hui, on assume le leadership au plan de la réflexion spirituelle, mais on doit aussi gérer des choses qui sont très humaines. L'administration occupe de plus en plus une part importante de votre travail, je crois, parce que avec la pénurie de personnel, j'imagine que la tâche devient de plus en plus lourde.
Non.
Non? Alors, on a une révélation, c'est le secret de Fatima, ça!
Tout vrai. Moi, je me dis, dans notre monde, dans notre Église, oui. Il y a des charismes. Il y a des gens qui ont des talents. Et quand on fait appel à ces gens-là, ils acceptent de dire, bon, je vais servir. Je vais servir à ma façon. Et moi, ça fait 12 ans que je suis à Belœil. Et j'ai jamais touché un sou des quêtes. J'apprends le montant de la quête quand je le lis dans le feuille paroissiale le dimanche suivant. Je ne me suis jamais occupé de toute la question de l'organisation des bâtisses, ces choses-là. Je me dis, il y a des marguilliers qui font très bien, qui connaissent ça plus que moi.
Là, il y a des prêtres qui vont vouloir connaître votre recette du bonheur.
Ah, qui appellent, il n'y a pas de problème là. Je me dis, même au niveau de toute la véhicule pastorale, on a été chercher des personnes qui se sont formées au fur et à mesure dans cette tâche-là, qui sont devenues très compétentes, plus que moi même.
Alors, c'est peut-être ça l'espérance, de pouvoir compter sur les charismes à l'extérieur du clergé.
Oui, entre autres, certainement, si on ne fait pas ça, on ne fera jamais église, c'est-à-dire ça va être encore de la hiérarchie.
Mais comment vous expliquez que certains réussissent, vous semblez réussir fort bien à le faire, alors que d'autres ont peut-être plus de difficultés à y parvenir?
Moi, je peux vous expliquer ce que je vis, mais il faudra demander aux autres pourquoi faire que ça ne marche pas, je ne sais pas.
Oui.
Mais je me dis, quand on veut travailler ensemble,
oui.
C'est sûr qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin, parce que c'est toujours, nos idées ne passent pas toujours tout le temps. Mais quand on sait qu'on est là pour une cause commune, quand on a une mission commune, vous savez, quand on commence à la réunion des marguilliers, on fait une prière où on dit, dans le fond, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta volonté et à mettre nos mains au service de ton projet. Donc, après ça, quand on fait la réunion, là, on ne pense pas à vouloir juste exploiter les autres. Là. On pense davantage à être au service de la communauté qui est là. Donc, je me dis, si le secret, c'est ça, c'est de respecter les charismes des gens, puis surtout les inviter à mettre leur charisme au service de la communauté, de l'Église, de leur communauté chrétienne. Parce que si on ne leur demande pas, les gens, ils nous regardent aller puis ils disent, ils n'ont pas besoin d'aide. Mais quand on a besoin d'aide, on leur dit, puis ça fonctionne.
Alors, est-ce que vous vous inscrivez dans la course au bonheur?
On est tous dans la course au bonheur. Je pense que tout le monde est à la recherche du bonheur. Puis là, je pense qu'on va présenter une pièce musicale que je trouve beaucoup. C'est une comédie musicale qui a été écrite, qui n'a jamais été jouée. C'est triste qu'on a pu faire un film ou je sais pas, une pièce de théâtre avec ça. C'est tellement beau. Et c'est l'histoire d'une personne qui cherche le bonheur. Puis il cherche le bonheur au pôle Nord, au pôle Sud, partout avec les animaux. Puis là, il va découvrir à la toute fin que le bonheur réside au fond de son cœur. Et je me dis, c'est découvrir Dieu aussi.
Alors, La course au bonheur, une comédie musicale écrite par Marcel Lefebvre et interprétée par Jean Lapointe et Ginette Renaud.
Comme au premier jour du monde, le premier regard s'est ouvert, émerveillé de bleu, de vert, tout étonné de la lumière. Je vois, c'est beau le monde, c'est beau la terre, et dire qu'on peut passer sa vie les yeux fermés, c'est beau la vie, quel univers. Et dire qu'on peut vivre sa vie sans le chanter.
C'est bon l'amour, c'est bon un cœur. Et dire qu'on peut passer sa vie à le cacher. C'est bon l'enfant, quelle merveille. Et dire qu'on peut le mettre au monde sans s'écrier. C'est
arrive presque au terme de notre émission en compagnie de l'abbé Nolin. Ça a passé rapidement.
Mais oui.
Dites-moi, on parlait de bonheur. C'est quoi, vous, votre destination bonheur?
Moi, je ne sais pas si c'est une destination. Je pense que le bonheur, c'est d'être capable de le cueillir à tous les jours. C'est, si aujourd'hui, je me lève, je me dis, je vais essayer d'être heureux, puis je vais essayer de rendre les autres heureux. Quand on fait le sacrement du pardon, là, on fait prendre conscience aux jeunes que, dans le fond, on dit, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Et la meilleure façon d'être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Moi, ça m'injouit ça à tous les jours. Quand je me couche le soir, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été pas juste utile, mais est-ce que j'ai aidé des gens à retrouver un peu le sourire, l'espérance, un peu la confiance, un peu d'amour? Si je réponds oui, je me dis, la journée bien remplie. Si je dis, ça aurait pu être mieux, mais je me dis, demain, je me reprendrai.
Est-ce que la présence du Christ, de nos jours, dans un Québec comme celui que nous connaissons, n'amène pas parfois des moments de solitude? Est-ce qu'on se sent pas tout seul de sa gang, entre guillemets?
Oui et non. Je me dis, dans le fond, c'est sûr que si on devient une minorité. Mais une minorité, quand on vit en minorité, on se resserre les coudes. Donc, nécessairement, on retrouve une espèce de communion entre nous. Quand c'est la majorité, à ce moment-là, on dit, on suit, tout le monde fait-le donc, comme c'était le leitmotiv d'un poste de radio à Montréal. Mais c'est pas de suivre, c'est d'être ensemble, c'est de vouloir vivre ensemble, c'est de vouloir partager des choses, c'est de vouloir créer des choses ensemble. Moi, je me dis, la présence du Christ parmi nous, c'est notre lumière, c'est notre soleil, c'est notre façon de dire Dieu est avec nous, puis de l'accueillir vraiment.
Et vous êtes manifestement très heureux. À l'approche de Noël, dans quelques semaines, quel serait le message que vous aimeriez adresser à ceux qui nous écoutent? Et qui parfois vivent des moments de solitude, soit parce qu'ils se retrouvent seuls dans les hôpitaux ou délaissés. Est-ce qu'il y a un message d'espoir?
Bien, moi, je dirais à tout le monde, dans le fond, lorsqu'on se sent seul, il ne faut pas tomber dans l'isolement. Si je me sens seul, il faut que je me retrouve avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est toujours là. C'est prendre le temps de prier un petit peu, prendre le temps de s'arrêter et de dire à Dieu, « T'es-tu là? Si t'es là, là, écoute-moi. » J'ai de quoi te raconter, j'ai de quoi te dire. Puis après ça, nécessairement, on partage notre cœur. Puis après ça, on entend la paix de Dieu qui nous envahit. Puis on dit, ah, ça m'a fait du bien. Comme quand on rencontre un ami qui vient dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Raconte-moi ça. Puis dit, lâche pas.
Bien, merci pour ce beau témoignage et pour cette note d'espoir. Ça a été vraiment un grand plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous aurez encore de nombreuses années à pouvoir porter ce message d'espoir.
Oui, M. Dubois, moi, mon grand rêve, c'est d'inverser les rôles un jour et de vous interviewer. Je disais, M. Dubois, parlez-nous aussi de vos convictions et de vos valeurs. Qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est quoi la source de votre bonheur?
Bien, l'une d'entre elles, c'est d'être avec vous aujourd'hui. On vous remercie beaucoup, Abbé Nolin. C'était l'émission Au gré du temps. À vous tous à l'écoute, merci d'avoir été là. Cette émission a été réalisée sous la supervision d'Alain Primeau. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Au plaisir, au revoir.